Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Il y a certaines féministes que cette tendance récente agace. Des hommes se proclamant féministes étalent à l'envi leurs efforts pour sortir des stéréotypes de la domination masculine. Leurs regrets, contrits, de s'être mal comportés par le passé, leur volonté d'être réformés, déconstruits. Ils publient des livres à ce sujet, des tribunes, parlent à la télé, et petit à petit, avec leur mea culpa et leur bonne volonté, ils réoccupent l'espace médiatique, reviennent au centre de l'attention et recommencent à parler à la place des femmes et à prendre trop de place. De la récupération, en somme. Les deux hommes que vous allez entendre aujourd'hui ne sont pas dans ce cas. Au contraire, il a fallu pas mal d'efforts pour les convaincre de se livrer. Ils resteront anonymes et vous ne les entendrez plus ensuite. Leur témoignage est rare, précieux et plein d'enseignements. Ils racontent ainsi, sans phare ni détour, ni forcément grand altruisme, mais assez simplement, quel chemin ils ont parcouru, comment précisément ils ont déconstruit leur sexualité, comment ils ont vaincu les clichés masculinistes. Sylvain a 31 ans et Guillaume 44. Deux générations et deux parcours différents pour une émission signée Sophie Simoneau, hautement pédagogique, mais sans doute pas pour les plus jeunes. Il y a des mots crus, des détails sur la sexualité qui ne sont pas faits pour toutes les oreilles.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, je m'appelle Sylvain. J'ai 31 ans, j'habite à Montpellier et je travaille dans le social. Ma première fois, elle est assez drôle et chaotique. J'avais 17 ans. Et je fréquentais une fille qui avait un mec, qui évidemment n'était pas au courant. Et on finit chez moi. Donc on est en train de faire l'amour. C'est un petit peu compliqué comme toutes les premières fois, de toute façon, je pense. Mais j'étais déjà pas du tout à l'aise. Parce que, pour un truc très con, mais parce que j'étais... à ce moment-là, je me sentais extrêmement serré. Je me sentais très serré en elle, quoi. Je me sens très bien, elle était elle sur moi, et je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que je pouvais faire. J'étais excité, j'avais une érection, quoi, mais c'était pas... je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait jouir comme ça, quoi. C'était très bizarre. C'était pas désagréable. C'était juste que je voyais pas où ça allait, quoi. Je voyais pas à quoi ça menait, en fait, d'être coincé comme ça dans un vagin, quoi. Et que je me disais, ok, mais en fait, il y a un truc que je comprends pas, là. Il doit y avoir un truc. Mais que je sais pas ce que c'est. Ah non, on m'avait pas dit grand chose, parce que comme les récits entre mecs étaient plutôt des récits un peu. Soit trash, très viril et tout ça, quoi. Très je l'ai eu, quoi. Je l'ai eu, cette meuf, j'ai baisé avec elle, un peu tableau de chasse, quoi, en gros, quoi. Soit un autre truc un peu plus mignon dont je me souviens. Quand j'étais au lycée, de mon meilleur pote qui me fait sentir ses doigts, et en fait ils étaient allés se pécho avec sa meuf dans une sorte d'arrière-salle derrière le CDI du lycée. Il l'avait caressé avec ses doigts, enfin il l'avait doigté, quoi. Et du coup, en revenant en classe, il me fait sentir ses doigts, une odeur que je connais pas, mais je comprends en deux secondes son sourire de quoi on parle, quoi. Mais ce qu'on se raconte entre mecs quand on est adolescent se limite à ce genre de choses, quoi. Après, ce que je savais, c'était la pornographie, en fait, hein. C'était pas plus que ça. Aucune information, quoi. Pendant les années suivantes, je pouvais essayer n'importe comment, mais en fait, je ne jouissais jamais. Je n'éjaculais jamais, et je n'avais jamais d'orgasme. Parce que, en fait, à chaque fois, ça a mis un bon moment. Et même quand ça commençait à arriver, en fait, la plupart du temps, à chaque fois, en gros, je perdais mon érection pendant le rapport. Parce que j'étais flippé, parce que j'étais hyper anxieux des rapports sexuels, en gros. La peur de mal faire et l'objectif de bien le faire, peu importe pénétration ou pas pénétration. Et pendant des années, c'était très dur pour moi d'arriver à avoir un orgasme. Et ça, c'était hyper frustrant. À l'époque, je viens d'arriver à la fac, j'ai mon propre appartement, j'ai quitté ma ville de naissance, je suis parti à 300 km de là, je suis autonome, je deviens un adulte. Je fais plein de choses de ma vie. Par contre, il y a un truc qui manque dans les cases à cocher, c'est avoir fait l'amour avec quelqu'un, quoi. Et ça, forcément, ça passait du coup par pénétrer la pénétration. C'est le truc de devenir un homme, en fait, quoi. Et tout ce que je raconte là, à l'époque, je ne l'ai raconté à personne. à l'époque de mouvement étudiant, donc je suis plutôt quelqu'un qui est en vue dans des assemblées d'étudiants, qui prend la parole facilement, et qui a l'aisance, y compris avec des meufs, et qui plaît à des meufs. Et du coup, le truc de, bah, en fait, au lit, par contre, ça se passe mal, et c'est la panne, et plutôt le truc pas cool que j'ai pas envie de raconter, en fait, quoi. Et à l'époque, avec mes potes mecs, personne ne parle de ça, en fait, quoi. Surtout des problèmes érectiles, personne n'en parle. C'est un tabou. Et même avec des potes maintenant qui ont 40 balais, avec qui j'en parle, tu mets toujours 8 verres d'alcool et une heure avant de commencer à se libérer et à en parler crûment. C'est pas dissible, quoi. C'est, tu peux pas le dire. C'est un truc de l'ordre de la honte, quoi, de pas arriver à faire comme tout le monde, quoi. Et ça a duré longtemps. Ensuite, de mes 22 à mes 22, 23 ans jusqu'à mes 28 ans, j'ai eu surtout deux relations longues où ça a vachement changé. Je couchais avec une fille qui était une pote à moi et j'aimais beaucoup cette fille. Et c'est la première fois que j'ai réussi un peu à parler de ça, à dire en tout cas que je galérais souvent, que j'avais souvent des pannes. À l'époque, je disais ça, j'avais des pannes, quoi. Et elle me dit le conseil que sa mère lui avait prodigué. Et elle me dit, en fait, vas-y, fais, enfin, vraiment pense qu'à toi, éclate-toi, pense à ton plaisir. Ne pense pas à mon plaisir, pense purement à ton plaisir. Ça sera sûrement très cool pour moi, et puis vas-y, et puis on voit comment ça se passe, quoi. Ne cherche pas à répondre à un code, en gros, quoi. De quoi t'as envie, fais-le comme t'as envie. Et ça m'avait vachement débloqué, parce qu'en fait, ça avait été discuté, en fait, quoi. Elle avait lâché, mais ça avait duré 10 secondes de discussion, peut-être, hein, non, peut-être pas, mais un peu plus, mais en tout cas, ça faisait baisser la tension, baisser le stress. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'adorais faire des cunis, que c'était un truc qui m'excitait énormément. Et on a fini par, du coup, dans un second temps, en fait, à passer par la pénétration. C'était pas le truc que j'avais préféré, mais c'était devenu cool. Et j'ai compris un truc pendant ces relations, c'était la différence entre jouir, éjaculer, et avoir un orgasme, avoir vraiment du plaisir. Et ensuite, mon expérience suivante, donc c'était avec une nana, une copine que j'ai fréquentée pendant plusieurs mois, avec qui c'était une histoire très très cool. En fait, au début, il y avait un truc de classique, préliminaire, plein de jeux, y compris un peu des jeux de domination, un peu sympa, un peu marrant, un peu gentil, où on s'amusait beaucoup avec ça. Et à chaque fois, les deux, trois premières fois, on était dans un truc de, ok, on essaye la pénétration quand même, et ça foire. Et en fait, rapidement, là, parce que je me sentais vraiment en confiance, rapidement, je dis, en fait, la pénétration, c'est pas mon truc. Et je pense que c'est la première fois que je l'ai dit clairement à quelqu'un. Et du coup, pendant plusieurs mois, on a eu cette relation où on a fait, évidemment, tout ce qui est de l'ordre du sexe oral, on va dire le premier truc le basique hors pénétration, c'est ça, quoi. Et puis, en fait, juste à s'amuser pendant des heures, en fait, quoi, sur les trucs de toucher, de fesser, de se tenir, de s'agripper, de dominer vraiment clairement l'autre, de s'agripper les corps, vraiment de se tenir en se pinçant, quoi, en se pinçant, en se mordant. Et l'orgasme, on pouvait l'avoir plein d'autres manières, y compris en se masturbant l'un et l'autre séparément. Par exemple, c'est un truc qu'on a expérimenté à ce moment-là. Et là, on s'est vraiment éclaté pendant des mois. Et y compris d'ailleurs, avec cette fille, on a eu des moments de pénétration de temps en temps, comme ça, dans la panoplie globale de ce qu'on peut faire, mais était devenu un truc parmi d'autres. Et en fait, quand tu arrêtes d'avoir comme objectif l'orgasme, et que tu prends juste l'objectif en soi du plaisir et de tous ces millions de plaisirs possibles à côté, c'est 10 fois mieux, parce que t'as eu le temps de faire plein d'autres choses et plein d'autres plaisirs pour être arrivé à une puissance totale. Enfin, ce triptyque orgasme, éjaculation, pénétration, quoi. Si tu les mets ensemble et que c'est ton objectif, en fait, tu retombes dans la routine et tu rates les 3 heures de plaisir autour, quoi. Et du coup, tu rates le vrai orgasme, justement, quoi. Et c'est pour ça qu'on s'est éclaté de ouf, quoi. On rigolait, en fait, beaucoup, quoi. Vraiment, on jouissait en rigolant. C'était très joyeux, en fait, comme sexualité, quoi. Et on garde tous les deux un super souvenir de cette relation, intimement, déjà, effectivement. Mais aussi sexuellement, je crois que ça nous a beaucoup marqué tous les deux, le fait d'avoir expérimenté pendant plusieurs mois une sexualité non pénétrative, on va dire, quoi. Mais j'adore ma sexualité. Et je dirais qu'aujourd'hui, elle est plurielle. Ne penser à la sexualité que par la pénétration, l'éjaculation et l'orgasme, ça te tue ton imagination. Et donc, du coup, je trouve qu'à l'inverse, maintenant, j'ai une sexualité qui est active et curieuse, quoi. Je suis à peu près capable de tester tout ce qu'on me propose, je sais pas, tout tester. Je pense à mettre une vie à tout tester. Mais théoriquement, j'aimerais bien tout tester. Et donc c'est cool, quoi. C'est joyeux et c'est cool d'être curieux ensemble. Donc c'est cool, la sexualité. Une fois qu'on a viré la pénétration comme alpha et oméga, c'est cool, la sexualité.
Alors, je m'appelle Guillaume, je suis originaire de Bordeaux et j'ai été pompier pendant 18 ans et depuis 2 ans maintenant, je fais de la formation pour adultes. Alors, ma sexualité a commencé, je dirais, en arrivant au collège. Il y avait une fille, Stéphanie, je pensais au sexe avec elle. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était le sexe, mais je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous les deux, quoi. Je regardais les émissions à la télé, Hélène et les garçons, tous ces trucs. Et voilà, je sentais bien que pour être un homme, bah, il fallait conquérir une femme, quoi. Alors, les revues pornographiques du collège, je crois que je les ai trouvées. Il y avait un endroit où on allait faire des tags dans une usine et il y avait des trucs qui traînaient. Et je les avais ramenés chez moi, je les avais feuilletés et j'avais trouvé ça trop beau, quoi. C'est marrant, le premier truc, c'est des beaux mecs, des belles filles. Et j'aimais bien les scènes qui étaient autour du sport, autour de la salle de sport, des tenues moulantes. Ouais, il y avait quelque chose comme ça, de, je sais pas, la transpiration, le fait que ce soit quelque chose de... ouais, une performance, ouais, c'est ça. Il y avait pas de tendresse dans les relations que j'imaginais avec les femmes. C'était tout de suite des relations charnelles, quoi. Au lycée, il y avait une fille, une belle rouquine. Un jour, ça y est, on s'embrasse. Donc, j'étais super content et tout. Et puis, elle me quitte le lendemain ou 2 jours après, sans m'expliquer ce qui se passe, rien. Et puis après, j'apprends qu'elle voulait sortir avec mon meilleur pote, Mehdi, l'Iranien, beau gosse de service. Donc, à ce moment-là, je me dis... t'es pas dans le game, quoi. Physiquement, j'étais petit, comme je suis encore aujourd'hui, un petit 1m68, pas très costaud, bouton, appareil dentaire. Ouais, non, j'étais pas très... En tout cas, l'année d'après, je me suis inscrit dans une salle de musculation. Et là, j'ai commencé à être un peu plus costaud, et donc du coup, je pense inconsciemment à m'affirmer un peu plus. C'était le fait d'être gros, de prendre de la place, quoi. C'est ça. Je me disais, putain, c'est comme ça qu'on est un homme, quoi. Et c'est là que j'ai eu ma première fois. J'étais en terminale. J'avais emprunté la voiture de mes parents. On part à la plage. Et par contre, j'ai aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai utilisé 3 capotes. Les 3 capotes, je sais pas si... À chaque fois, j'avais joui. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'étais hyper content le lendemain et j'étais fier de moi. Bon, je regardais des livres porno, mais j'avais quand même commencé à regarder quelques films. Et dans les films, le mec, il fallait qu'il dure. Et puis, bah, c'était mon cas, quoi. J'étais pas quelqu'un qui était sûr de lui. Mes résultats scolaires étaient plus que moyens. À chaque fois, on me marquait « peut mieux faire ». Donc, enfin, j'avais trouvé un truc... où j'étais performant. Donc la vie était bien partie. Donc après, je suis parti à la fac. Je suis sorti avec des filles. Au lit, c'était toujours bien. J'ai eu ma première copine officielle. Tout allait bien. Je faisais une école pour devenir donc officier chez les pompiers. Et ensuite, c'est là que ça s'est un petit peu dégradé, on va dire. Pendant mon service, donc c'était chez les pompiers... Je me rappelle très bien d'une soirée où on a pris un apéro. J'ai été invité dans la chambre de mecs qui étaient un peu plus anciens. Et surtout, en fait, je les entendais parler et ces mecs, ils avaient de la bouteille chez les pompiers. Et là, je me rends compte qu'en fait, chez les pompiers, bah, les mecs, pour un rapport sexuel, ils disent piner. Donc, chez les pompiers, ça pinait beaucoup. j'apprends qu'il y a le bal du 14 juillet, qu'il y a des filles qui viennent juste pour avoir un rapport sexuel avec eux, qu'il y en a même des fois, ils sont plusieurs dans sur elles, enfin. Et puis là, je me rends compte que, parce que bon, j'avais commencé à passer à autre chose au niveau de la pornographie, et je commence à me rendre compte que ce que je voyais dans les films, bah, ça se passait dans les casernes, en vrai. Et je me rappelle toujours, je crois que c'était la première fois que je parlais avec un mec, vraiment, de qu'est-ce qui se passe quand t'es au lit avec une fille. Et le mec, alors c'était un ancien pompier de Paris, je me rappelle, on avait la douche qui était dans la chambre, il sort de la douche, à poil. Le gars, c'était un Big Jim. Les épaules, les pecs, les abdos dessinés. En plus, il avait une bite énorme. Et là, je fais, waouh, où est-ce que je suis tombé? Et le gars, il dit, oh, bah, ça va être mieux qu'à Paris ici. Et je dis, ah, bah, ouais. Donc, il y avait vraiment ce mythe du pompier performant au lit qui était là-dedans. Et le problème, c'est que, bah, j'étais pas le gars populaire, en fait, avec ces mecs-là. J'étais pas grand, j'avais pas de cheveux. Et en fait, chez les pompiers, bah, comme dans tous ces milieux d'hommes, on taille beaucoup. Donc, le petit chauve. Alors en plus, j'étais pas gros, hein, mais quand on voit pas tes tablettes, t'es un gros sac. Quand les mecs ils sortent en soirée, c'est la chasse, quoi. Et puis après, quand le lendemain ils en parlent, ah machin, il a chopé la blonde là, bah dis donc machin. Et en fait, il est valorisé par les autres, alors que toi, bah déjà t'es pas sorti, donc le lendemain t'es pas valorisé. Et le seul truc sur lequel on parle de toi, c'est t'as reculé dans un poteau ou t'as fait tomber un tuyau pendant la manœuvre. Et en fait, ce monde, il se valorise autour des mecs sont forts en sport, sont forts en manœuvre, sont forts chez les pompiers, et des fois même ils ont même pas besoin d'être forts chez les pompiers à partir du moment où ils prennent l'apéro ou alors qu'ils connaissent des filles. Alors que toi, quand tu vas pas en soirée, bah t'es dans la case des losers, quoi, des mecs qui voilà, et tu fais même honte. T'as des mecs qui vont dire mais lui c'est pas un vrai pompier. J'ai honte qu'il ait un uniforme, ce mec. Donc du coup, ma confiance en moi avait descendu par rapport à ça. Je rentrais pas dans le moule, en fait. Ensuite, je suis rentré pompier pro et j'ai fait les classes. Donc pendant 4 mois, on fait l'instruction. Et pendant les classes, c'est là que je rencontre ma première femme. Je la trouve pas spécialement belle. Elle me plaisait pas. Son visage me plaisait pas. Mais je me disais, de toute façon, tu pourras pas ramener mieux. Et donc, je suis resté 9 ans avec elle. Je me suis marié et 6 mois après, je la quittais. Alors, je la quitte au bout de 9 ans parce que bah, sexuellement, ça allait plus. On le faisait de moins en moins souvent et ça avait un rapport aussi avec le fait que bah, moi, je durais hyper longtemps. Souvent, elle me disait, mais tu veux pas qu'on fasse juste un petit coup, un quickie, elle appelait ça. Mais sauf que moi, c'était impossible. Parce qu'en fait, moi, ça durait 45 minutes, une heure à chaque fois. Je pouvais pas jouir tout de suite, quoi. Et puis en plus, je prenais mon pied, quoi. J'aimais bien, voilà. Donc je faisais comme dans les films, je faisais toutes les positions. Je me rappelle d'un jour. En même temps, j'étais prof de roller dans un skatepark. Et je me rappelle, il y avait un gars, il était CRS. Et je lui avais expliqué qu'une nana, je pouvais lui faire faire un 360 sans sortir d'elle. Je suis sur elle. Je la fais tourner, comme un poulet dans un four, par exemple. et en fait, voilà, je lui fais passer une jambe, tac, 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 et je lui fais faire un tour complet. Et je me rappelle que le gars m'avait demandé comment je faisais ça. Et je me rappelle, devant les autres profs, ben, sur le CRS, j'avais fait les positions, quoi. C'était ridicule quand j'y pense. Mais ça avait fait marrer tout le monde. Et lui, il disait, mais je comprends pas comment tu fais et tout. Et donc, à ce moment-là, moi, je me valorisais avec mes performances sexuelles, mais concrètement, dans mon couple, c'est pas ça qui marchait, puisque voilà, elle disait que voilà, elle voulait des quickies, et puis à l'époque, je discutais pas du tout de est-ce qu'elle jouissait, est-ce qu'elle avait mal, est-ce que des fois, parce que voilà, quand tu dures 45 minutes, une heure, il y a un moment, ça frotte, quoi. Enfin, et maintenant, avec le recul, je me rends compte que je faisais un tennis, en fait. Je faisais pas l'amour, c'était voilà. Alors si, il y avait la jouissance au bout, mais je me rappelle d'un soir, ça a coupé vraiment quelque chose. J'avais envie de lui faire l'amour, je la regarde, je lui caresse le sein comme ça, et elle me regarde et elle met ses mains sur mon torse et elle me secoue les pecs comme ça en disant tu crois que ça donne envie ça? Et là j'étais mal, j'ai dit oh là là, elle m'avait, enfin pour moi j'étais humilié quoi. Et à ce moment-là, je comprends rien. Je me dis pas ah peut-être que elle voudrait un peu plus de sensualité, peut-être que je suis un petit peu bourrin. Mais ouais non, à ce moment-là pour moi c'est elle le problème, c'est pas moi. Alors pour moi la bascule, elle a lieu à un moment je me retrouve célibataire. Et à ce moment-là, j'ai eu des changements d'ordre personnel. J'ai perdu mon frère, je me suis beaucoup interrogé sur ma vie. Alors en aparté, mon frère, c'est quelqu'un qui était handicapé, qui buvait et donc que je considérais très mal. Pour moi, c'était un alcoolique. Et le jour en fait de son enterrement, il y a énormément de monde. On avait pris une petite salle parce que voilà, on n'a pas beaucoup d'argent. Et puis les gens sont venus de son centre d'aide par le travail. Et ils sont venus en bus, quoi. Ils ont ouvert une grande salle. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais toi, qui est-ce qu'il y aura à ton enterrement? Et puis surtout, je me suis interrogé sur qui était mon frère. Et je me suis rendu compte que, malgré son handicap, malgré son alcoolisme, c'était quelqu'un qui était hyper humain et qui était proche des gens. Et en fait, là, il y a eu vraiment un changement de paradigme dans ma tête où je me suis dit, mais ta vie tourne autour de quoi, en fait? Et je me rendais compte que pour l'instant, ma vie, elle tournait autour d'avoir une femme et des enfants. En fait, c'était ça le but de ma vie. Mais bon, je rencontrais pas les bonnes personnes, ça a jamais allé, j'étais insatisfait et je savais pas pourquoi. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais complètement à côté des gens, en fait. À côté de mes amis, à côté de ma famille, à côté même des femmes avec qui j'étais. Je développais pas de relation, en fait. J'avais aucun lien avec les gens. Là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai commencé une thérapie. Et en fait, à ce moment-là, moi qui ai toujours voulu être avec des belles femmes et qui suis jamais arrivé, bah à ce moment-là, il y a des belles femmes qui sont venues à moi. Je rencontre donc une fille avec qui je vais rester 3 ans et demi, 12 ans de moins que moi. Elle était grande, elle faisait 1m75, donc plus grande que moi. Et puis surtout, un avion de chasse, une beauté, une fille super belle. Et là, je me dis, bah, c'est bon, t'es le roi du pétrole, quoi. Sauf qu'avec cette fille, niveau sexe, ça n'a jamais marché. Et pourtant, j'avais envie de rester avec elle. Je me suis rendu compte que... qu'au bout de ma queue, il y avait quelqu'un, en fait, quand je faisais l'amour. Et que cette personne... c'est pas parce que je faisais des allers-retours, des positions acrobatiques, que je durais une heure, que ça allait lui suffire pour jouir, quoi. Et donc, bah, même si ça se passait pas bien, j'ai été beaucoup plus attentif. C'est-à-dire que, bah, chose que bon, avant c'était impensable pour moi, des fois on s'arrêtait au milieu, quoi. Parce que je voyais à son visage que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout, oh, ça va pas, non, mais on continue. J'ai dit, non, mais si ça va pas, on arrête. Et on arrêtait et on discutait. On a énormément discuté autour de tout ça. Et du coup, ça a été vraiment un soulagement. C'est un soulagement parce que voilà, je me suis construit dans le terme de... voilà, le sexe, c'est de la performance. C'est il faut assurer, il faut bander, il faut faire jouir, il faut durer. Et là, je me rendais compte que bah non, des fois, ça pouvait s'arrêter avant. Des fois, ça pouvait ne pas plaire à l'autre. Et puis sortir de cette obligation d'être épanoui sexuellement dans un couple, bah ça enlève un poids de fou, quoi. C'était vraiment la première fois que j'imaginais une relation sans sexe. Et donc mon ultime prise de conscience, ça a été l'année dernière. Je me renseigne un peu par rapport au porno. J'en avais marre de regarder du porno... parce que voilà, j'ai vu des documentaires, la pornocratie notamment, enfin des choses comme ça, où je me rends compte que c'est beaucoup d'exploitation des femmes. Et puis surtout que bah il manquait du lien. Et ça, c'est ma compagne actuelle qui a mis le doigt dessus. Des fois, on faisait l'amour et elle me dit mais là t'es pas là. Pendant que je le faisais, je pouvais avoir des images qui revenaient ou justement bah des images de films. Et on a réussi à en parler. Et le fait d'être connecté. Voilà, enfin, quand je fais l'amour maintenant et que je suis vraiment dans la conscience de ce que je fais, il y a plus aucune autre image qui vienne. Je suis dans le truc et à ce moment-là, voilà, j'ai pris du plaisir comme j'en ai jamais pris avant. Donc c'est des fois c'est difficile et il faut se remettre en question, mais enfin, je suis bien content d'avoir fait cette bascule. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est un changement qui est hyper global. Je remets en question mon mode de relation avec les gens, quoi. Le fait d'être plus ouvert, de plus discuter avec les gens, de plus essayer d'aller à la rencontre des gens, ça m'a ouvert, par exemple, à des idées féministes. Je remets en question mon mode de vie, mon mode de consommation. C'est vrai qu'on parle beaucoup du sexe, mais voilà, je suis devenu végétarien. Je prends des douches froides, j'utilise plus les GAFA. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui ont changé chez moi grâce à ça. C'est quelque chose de plus lent. Et si on peut le ramener au sexe, voilà, c'est pareil. Quand je fais l'amour maintenant, je suis plus dans les caresses, plus dans le ressenti, plus dans ce que ça me fait au niveau des contacts. Voilà. Et ça, c'est des choses que la pornographie gomme complètement. Par exemple, voilà, vous avez deux personnes qui font l'amour, on va pas filmer leurs mains, on va pas filmer leur visage, on va pas, voilà, vous avez juste des gros plans sur les sexes. Et donc c'est voilà, c'est un apprentissage que j'ai fait au fur et à mesure, et je pense que le porno m'a fait perdre 20 ans de ma vie, 25 ans même, 30 ans, trop de temps.
C'était « Regarde les hommes changer », un reportage de Sophie Simoneau réalisé par Émilie Valla et mixé par Dophar Guéride. Merci à Sylvain et à Guillaume et à toutes les femmes qui les accompagnent, les amis ou les amoureuses qui se reconnaîtront, ainsi qu'à Télérama, à qui nous avons piqué le titre de cette émission et qui consacre un grand dossier aux nouvelles masculinités. C'est Jeanne Coppet, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Justine Calais, notre stagiaire.